d'emploi. Mode d'emploi.
Bienvenue sur Mode d'emploi. Donc le troisième samedi, le troisième vendredi de chaque mois, comme d'habitude, nous avons droit à, au format secret de fabrication. Donc Mode d'emploi sur 106.3 FM, radio fréquence Paris pluriel, HTTP sur le net, donc http://www.rfpp.net. Alors, bien entendu, vous êtes tous invités à participer à l'émission en téléphonant au 01 40 05 06 10. Il y a un standard pour vous accueillir et nous passerons votre commentaire ou vos remarques sur l'émission en direct. Toute personne susceptible d'intervenir sera bienvenue. Alors, on va faire une petite présentation, un rappel de ce que c'est que le format secret de fabrication, car nous avons eu la chance de passer cette semaine dans l'agenda de RFPP, où nous avons un peu décrit l'émission. Et c'est vrai que ça fait maintenant bientôt un an que nous avons mis en place ce format. Et donc, nous allons rappeler un peu ce que nous faisons à Mode d'emploi dans le format secret de fabrication. Alors, le format est un peu spécial, effectivement, parce qu'il est animé par des syndicalistes de l'inspection du travail et de Pôle emploi. Et l'objectif de l'émission est de passer de l'autre côté des guichets de Pôle emploi ou de l'inspection pour parler à la fois de ce qui se passe dans les administrations sociales, ce qui se passe dans les entreprises, avec un éclairage particulier, dans l'emploi, et c'est-à-dire au travail et dans les entreprises, donc. On veillera toujours à privilégier la parole de salariés, de préférence mobilisés. Alors, nous avons eu droit à des interventions jusqu'ici de coiffeurs et de coiffeuses, de postiers, de fonctionnaires, d'intermittents, de salariés du nettoyage, de conseillers des prud'hommes et bien entendu de camarades de l'inspection du travail. Voilà, donc l'objectif de cette émission, c'est d'échanger nos expériences, nos rêves et nos réflexions sur les résistances à l'exploitation et à la chosification dans la relation de travail. C'est pour ça qu'on essaie d'explorer les voies et les moyens de l'émancipation sur le lieu de travail. Alors, cette émission aujourd'hui est un peu particulière car nous avons eu ce mois-ci une très mauvaise nouvelle. Alors, on est déjà venu parler de l'affaire Laura Pfeiffer. L'affaire Laura Pfeiffer, c'est tout simplement aujourd'hui le constat que quand on fait notre travail à l'inspection du travail, on peut se retrouver mis en cause et condamné pour avoir fait son travail. Donc le 4 décembre 2015, donc de ce mois-ci, nous avons eu le malheur d'apprendre que notre camarade et collègue Laura Pfeiffer a été condamnée. Voilà. Le tribunal d'Annecy a abattu son maillet. On verra plus tard que c'est plutôt son maillot, mais on verra pourquoi. On a abattu son maillet sur le socle en disant que l'inspection du travail allait devoir sérieusement revoir ces modes d'intervention dans l'entreprise. Nous allons voir exactement pourquoi. Alors, là-dessus, nous allons enchaîner sur diverses attaques qu'il y a contre le code du travail, mais aussi contre le métier d'inspection, à travers des rapports, à travers des projets de loi qui vont nous tomber dessus très bientôt. Et nous allons voir comment ça devient de plus en plus difficile, il faut le dire, de résister à l'ère du temps, de résister à la dégradation du système social, en fait, de ce pays. Et donc, nous allons commencer par un petit morceau de musique qui nous montre que nous sommes tous en attente de la même chose, un peu un grand changement. Pendant cet appel, pendant ce morceau de musique et pendant toute l'émission, donc vous êtes invités à venir témoigner sur l'antenne au 01 40 05 06 10 pour parler de cette situation. Et bien entendu, les collègues de l'inspection sont invités à se signaler.
Don't you know? talking about a revolution sounds whisper. Don't you know how talking about a revolution? Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
C'était Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Nous allons voir que effectivement c'est quelque chose dont on aimerait bien parler plus souvent en ce moment. Il serait temps de faire bouger les lignes, de faire changer les choses. Pour le moment, ça va pas exactement dans le bon sens, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous revenons donc sur l'affaire Laura. On aurait préféré s'en passer, hein, la vérité, à cette émission. Nous avons déjà fait plusieurs rappels de ce qui s'était passé, donc là je vais faire court en ce qui concerne les antécédents. Alors nous avions vu que donc Laura Pfeiffer, qui était inspectrice du travail en Haute-Savoie, avait en charge le contrôle de l'entreprise Tefal. Jusqu'ici rien de bien normal. Toute entreprise en France a théoriquement un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail qui s'occupe de son dossier et qui opère des contrôles dans cette entreprise. C'est considéré comme assez normal. Rien de bien grave à ce niveau-là. La complication vient que Laura Pfeiffer prend son travail au sérieux et elle décide de contrôler les divers aspects de la vie sociale dans l'entreprise. Notamment, on reviendra dessus, la question de l'accord des 35 heures. Sur lesquels elle met des doutes. Et à partir de là, elle sera ciblée par l'entreprise Tefal en lien avec toutes sortes de d'associés administratifs et policiers qui vont monter un dossier contre elle à son insu pendant plusieurs mois, monter sa hiérarchie contre elle, qui se fera la fidèle exécutante des desiderata du patronat et notamment de l'employeur Tefal. Et donc, Laura se retrouvera en butte à des difficultés croissantes pour exercer son travail et pour opérer des contrôles à l'intérieur de Tefal. On pourrait en rester là, mais la situation rebondit, car en octobre 2013, donc elle reçoit un mail anonyme d'un salarié de Tefal, de quelqu'un qui s'avère être un salarié de Tefal, et qui lui transfère des mails, une chaîne de mails, des documents internes à Tefal, toute une série d'informations que Tefal souhaitait garder confidentielles, mais qui la concernent directement. Dans ces informations, dans ces mails, on apprend que effectivement, on apprend la nature de la cabale qui a été montée contre Laura, avec implication des renseignements généraux, implication de l'administration préfectorale, lien permanent entre la direction de l'entreprise et sa propre hiérarchie pour lui savonner la planche, pour l'empêcher de nuire littéralement. Et là, y a quelque chose de très étrange qui se passe, en fait. Comment on en aboutit à la situation actuelle? Laura, se sachant visée directement et considérant que ses documents la concernent directement, transmet ces informations à ses syndicats, à une intersyndicale qui la défend. Rien que très normal, l'intersyndicale utilise les moyens qui sont les siens pour faire connaître cette affaire, faire sortir l'information comme quoi il y a eu des pressions extérieures violentes et indues contre une inspectrice du travail. Et donc, évidemment, ça fait la une de la presse, pas très longtemps, bien sûr, on passe à autre chose, mais bon, ça sort dans la presse. Pendant ce temps, en parallèle, ça c'est un point extrêmement important, en parallèle, Laura dresse un procès-verbal d'obstacle à l'encontre de l'entreprise Tefal. C'est quoi un procès-verbal d'obstacle? Eh bien, en fait, la fonction de l'inspection du travail est donc de contrôler les conditions et les conditions de travail et les droits sociaux dans l'entreprise. Et donc, à ce titre, elle dispose d'un droit d'entrer dans l'entreprise, dans les entreprises, de jour comme de nuit, tant que des salariés y sont occupés, pour effectuer des constats. Elle a également, l'inspection du travail a également un droit de communication d'un certain nombre de documents qu'il est obligatoire de lui fournir sur demande. Et l'ensemble de ces droits doit être respecté sous peine donc de procès-verbal d'obstacle aux fonctions de l'inspection du travail, qui est une des mesures qui sont prises pour faire respecter nos prérogatives dans l'entreprise. Donc on a de matière à faire obstacle, puisque bien on voit bien qu'il y a des pressions extérieures, des tentatives de déstabilisation, des refus de déférer, on préfère passer par l'entregent et les renseignements généraux pour obtenir satisfaction. Et donc, il a largement de quoi faire un procès-verbal d'obstacle. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des procureurs, donc nous n'avons pas le pouvoir de poursuivre par nous-mêmes. Nos procès-verbaux sont transmis aux instances judiciaires, notamment au procureur de la République, qui ensuite a toute latitude pour les reprendre, les instruire, poursuivre ou classer. Or, il s'avère qu'au même moment, au moment où Laura dresse un procès-verbal pour obstacle à l'encontre de Tefal, Tefal saisit de son côté le procureur de la République pour lui demander de poursuivre Laura. À quel titre ? Eh bien, le prétexte est que les documents qui lui ont été transmis étaient des documents confidentiels de l'entreprise qui n'auraient jamais dû quitter l'entreprise et qui étaient donc volés. Donc, qui dit récupération de documents volés et transmission dit recel. Et donc, de fil en aiguille, le lanceur d'alerte interne à Tefal est identifié par Tefal, le lanceur d'alerte, comme Laura, sont poursuivis pour violation du secret professionnel en ce qui concerne Laura, vol de documents confidentiels en ce qui concerne le lanceur d'alerte, et recel de ces mêmes documents en ce qui concerne Laura. Et donc là, on a, sur le bureau du procureur, à ce stade, deux dossiers. Un PV d'obstacle, dans un sens, un PV de violation du secret professionnel, dans l'autre. Que va faire le procureur Maillot ? Parce que c'est comme ça que s'appelle le procureur d'Annecy. Hein, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes. Eh bien, il va poursuivre uniquement le procès-verbal qui lui a été la plainte qui a été déposée par Tefal. Et il va ignorer le procès-verbal d'obstacle qui dort au même moment dans le même parquet et qui ne sera même pas adressé en contradictoire pendant l'audience. Donc, suite à cette instruction à charge. Et malgré les mobilisations des collègues, donc on a déjà parlé des mobilisations, il y avait une mobilisation en juin, il y a eu nouveau une mobilisation en octobre, le même jour que l'émission d'octobre, du mois d'octobre de Secret de Fabrication, dont nous avons fait état. Donc nous avons sérieusement mobilisé pour défendre notre collègue, nous avons sérieusement pris la rue, occupé la parvis du tribunal de grande instance d'Annecy. Nous avons fait connaître nos doléances, nos revendications. Mais rien à faire. Le 4 décembre, donc comme je disais, le verdict tombe. Laura Pfeiffer et le lanceur d'alerte de Tefal sont tous deux condamnés pour les griefs qui avaient été posés contre eux par Tefal. Donc pour cela, ils sont condamnés chacun à 3 500 € d'amende avec sursis, 2 500 € de frais de justice à leur charge, puisqu'ils perdent le procès, et l'inscription au casier B2. Et donc l'ensemble de ces condamnations peuvent avoir des conséquences très graves. D'abord parce que il faut qu'on fasse une saisine en appel, mais aussi parce que le casier B2, c'est extrêmement problématique pour une inspectrice du travail. Car c'est des informations qui sont relevées et retenues pour savoir si elle pourra poursuivre sa carrière. Oui, sa carrière est en jeu. Et nous allons devoir mobiliser énormément pour qu'elle puisse rester notre collègue. Donc nous reviendrons sur la suite des événements et comment nous entendons tout de même obtenir la justice pour Laura et pour le lanceur d'alerte de Tefal. Et suite à une nouvelle pause musicale qui sera dédiée à Laura et qui sera la chanson du Partisan, car nous sommes de tout cœur avec toi Laura et nous te soutenons dans cette épreuve. Un intervenant, quelqu'un qui a appelé l'émission.
Oui, bonsoir.
Oui.
Oui, voilà, je vous appelle effectivement par rapport à ce premier sujet sur Laura Pfeiffer. J'avais cru comprendre, mais vous m'arrêterez si je me trompe ou pas, qu'elle était reçue cette semaine par la ministre du Travail, Myriam El Khomri.
Alors, nous avons dû batailler ferme pour obtenir un certain nombre de réactions du ministère, parce qu'il ne s'est rien passé suite à la condamnation. Nous avons été obligés de nous mobiliser devant le ministère le jour même, qui est un peu limite. Donc la condamnation, c'était le prononcé du jugement était le 4 décembre. Hein. Donc ce que nous avons obtenu de la ministre, c'est pas de poursuite disciplinaire. Ça, c'est par rapport au B2. Hein, le casier B2 dont je venais de parler, c'est-à-dire que évidemment ils ont l'option, c'est entre leurs mains, d'éventuellement poursuivre Laura et lui infliger blâme ou bien mise à pied ou bien révocation. Hein, ça peut aller jusque là le B2. Donc ça, on a obtenu que ça ne se ferait pas. Bon, alors faut prendre ça avec une pincée de sel. On a obtenu également que la protection fonctionnelle serait maintenue. Alors, quant au rendez-vous dont tu parles, juste une petite question, tu es un collègue ?
Oui, je suis l'un des animateurs de l'actualité des luttes.
Voilà, ok, ça marche. Ben,
voilà.
Donc oui, comme je disais, il nous reste à nous bagarrer pour obtenir une condamnation et une déclaration publique du ministère pour condamner les agissements de Tefal. Ça, on n'a pas de nouvelles. On a obtenu la protection fonctionnelle, comme je disais, qui permettra à Laura d'aller en appel. C'était pas gagné non plus. Et par contre, on n'a pas de nouvelles de l'accident de service qui suite aux coups successifs que Laura s'est pris suite à l'évolution de cette affaire, elle a été plusieurs fois en arrêt de travail. Tu peux imaginer.
Oui.
Ça n'a jamais été reconnu par le ministère comme des accidents de service. Ce n'est pas lié au service.
Est-ce que par rapport à la sanction qu'elle a eue, elle peut, comme j'allais dire dans le droit commun, faire appel?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Elle peut faire appel. Ce n'est pas la seule tour que nous avons dans notre sac. Nous allons aussi faire appel au BIT, hein, au Bureau International du Travail, qui est notre organisme de tutelle internationale et qui normalement veille sur ces situations d'influence extérieure indue. C'est strictement interdit par la Convention 81 de l'OIT qui nous couvre. Voilà. Alors concernant donc le rendez-vous dont tu parlais, il a effectivement eu lieu cette semaine à Lyon, le 16, donc mercredi, nous étions en grève. Pour soutenir notre collègue. Elle a été reçue je ne crois pas par la ministre elle-même, mais par un panel de hiérarques. Alors malheureusement, on regrette que nous, dans le panel de hiérarques, il y ait exactement les personnes à qui elle doit sa situation catastrophique, mais c'est comme ça dans notre ministère, que veux-tu ? On est reçu, quand on est des victimes, on est reçu par les bourreaux. C'est comme ça. Mais bon, cela étant dit, c'est dans le cadre aussi. On aurait demandé un rendez-vous de toute façon, parce que ça pose évidemment de sérieux problèmes de pratique, hein, ce genre de situation. Pour intervenir dans les entreprises, ça va être compliqué pour nous tous là, en vérité.
On le voit bien, puisque nous on a eu l'occasion de suivre la lutte qui se passe, c'est OMS Nettoyage.
Oui.
Alors là, effectivement, pareil, quel rôle les inspecteurs du travail peuvent avoir, parce qu'on voit que des choses ne se font pas, et des choses qui paraissent basiques, mais visiblement, comme c'est des prestataires, il y a vraiment un brouillard très très complet. Mais en tout cas, les salariés, et ça fait quand même plaisir, sont très combatifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, soutenu aussi par la CNT, donc CNT Nettoyage, donc je trouve ça, c'est très important. Mais on voit bien que actuellement, et ce l'est de plus en plus, c'est pas nouveau, mais ça se complique de en plus avec le détricotage du code du travail qui est en train de se mettre en place. Mais en tout cas, il y a quelque chose un peu de positif cette semaine, parce que visiblement, sur le travail du dimanche, il y a des syndicats qui ne veulent pas mettre en place l'accord qui a été signé apparemment. Mais bon.
Oui. Alors, justement, on va introduire la question des accords tout de suite.
Ouais.
Ce que je voulais dire sur les grévistes d'OMS, il me semble, alors si je ne m'abuse, qu'ils ont cherché à remplacer les grévistes par des intérimaires ou des salariés précaires extérieurs, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il y avait quelque chose effectivement de ce genre. Et voilà, ça c'est quand même assez. Mais bon, c'est tous les patrons font toujours ça. On l'avait vu à PSA en essayant de jouer avec les cadres et tout ça. Et donc là, effectivement, on se retrouve devant les mêmes choses. Mais dans le nettoyage, c'est vraiment très très compliqué. Ils sont dans des situations très difficiles, quoi.
Il y a quand même un type d'intervention dans le cadre spécifique d'une grève, par exemple, comme ce qui se passe à OMS. Hein, alors je dis pas que c'est garanti parce que comme on est débordé, on n'a pas toujours le temps de se rendre sur tous les fronts, hein, à l'inspection du travail, c'est bien sûr. Mais par exemple, quand il y a effectivement des remplacements, alors utiliser sa propre main d'œuvre et notamment des cadres pour remplacer des agents d'exécution, c'est possible. C'est pas illicite en soi. C'est-à-dire que on peut modifier des postes pour réorganiser le travail pendant une grève. Donc ça, c'est pas ce qu'on considère comme exclu. De là à savoir si les cadres feront aussi bien le boulot que les agents d'exécution, ça c'est un problème qu'on laisse au patron. Hein. Ça c'est son problème. Mais par contre, ce qui est illicite, c'est d'introduire du personnel pendant une grève. Parce que évidemment, c'est présumé pour remplacer les grévistes. Donc notamment les intérimaires ou des contrats à durée déterminée ne peuvent pas être embauchés à l'occasion d'une grève. Voilà. Et donc là, pour le coup, il y a la possibilité, quand effectivement la situation est constatée sur un piquet, qu'il y a des salariés qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam qui arrivent pour prendre la place des salariés grévistes. Hein. Là, on n'est plus dans le cadre de la liberté du travail. Là, on est dans le cadre d'un abus de droit, qui est l'abus de droit d'embaucher en temps de grève. C'est très réglementé. Et donc là, il est possible, si on a la chance d'avoir un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail disponible à ce moment-là, c'est toujours une gageure, mais bon, il est possible de le faire intervenir pour qu'il puisse constater la violation du droit de grève, en fait, tout simplement.
Ouais.
Voilà, donc c'est une possibilité d'intervention. C'est toujours... alors, c'est ça aussi, hein, faut voir que nos interventions, ce sont des interventions qui sont, comment dire, qui ne sont que partiellement encadrées par la loi, c'est-à-dire que c'est pas automatique. On arrive, on a une capacité de suite à nos constats qui est à notre main, et donc on a une forte capacité de négociation. Donc on arrive très souvent dans une posture de négociation, mais aussi une posture de, on attend de voir un peu aussi ce que le patron va nous proposer comme solution de sortie. Hein. Je dis ça parce que tu parlais donc du détricotage du droit du travail. Le cas de Laura est très emblématique. Je vais juste développer là-dessus. Parce que en fait, le détricotage actuellement hein, du code du travail s'appuie énormément sur la généralisation maximale du régime des accords d'entreprise. Hein. Donc, si tu as suivi un peu la sortie du rapport Combrexel, hein, ça te dit quelque chose hein.
Oui, oui.
Voilà. Le rapport Combrexel. Alors, on reviendra plus tard sur qui est ce sinistre personnage. Mais déjà, le rapport Combrexel est un rapport qui préconise la montée en puissance de la convention collective et de l'accord, donc la convention collective pouvant se décliner jusqu'à l'entreprise, hein, c'est ce qui n'est pas la loi, c'est ce qui n'est pas du domaine de la loi. Et donc le rapport Combrexel préconise d'élargir énormément le domaine de la négociation collective, du soi-disant dialogue social, et de réduire à un socle minimal ce qui est du cadre de la loi imprescriptible et de l'ordre public social. Voilà.
Parce que l'idée aussi dans ce réaménagement du code du travail, c'est de plus avoir des accords collectifs, mais de négocier entreprise par entreprise.
C'est ça. Ben, les accords collectifs peuvent être à n'importe quel niveau. Voilà. Et donc tout l'objet du rapport Combrexel est d'élargir cette utilisation de l'accord. Et le but, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport Combrexel, à la fois dans le rapport lui-même et dans sa synthèse. Le but, c'est en fait de créer un socle favorable à la négociation avec une nouvelle dynamique, de nouveaux champs. Alors ça, j'adore les mots qui sont utilisés, mais pour qu'à long terme, dans 4 ans, c'est-à-dire que l'application immédiate, c'est 2016, mais à long terme, on est une toute nouvelle architecture du code du travail qui soit littéralement renversée sur sa tête, c'est-à-dire avec 80% du droit du travail applicable dans l'entreprise, bah, défini soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de la convention collective de branche. Et là-dessus, il y a beaucoup à dire. Mais pour le lien avec l'affaire Laura, comme je le disais en début d'émission, c'est la première initiative qui a vraiment irrité Tefal. C'est le contrôle de l'égalité sur l'accord des 35 heures que Laura a effectué sur l'accord 35 heures de Tefal. C'est quoi le contrôle de l'égalité ? Nous, on signe pas d'accord. Mais quand un accord est signé, on regarde, au regard de la loi, s'il rentre dans les différents cadres, si les contreparties qui sont prévues par la loi ont été négociées et obtenues. Et ça, c'est une prérogative ou de conseil. On n'a pas de pouvoir coercitif. On écrit un courrier en disant « il ne semble que l'accord mériterait d'être renégocié, il faudrait revoir les clauses et ceci, cela ». À la main ensuite des partenaires sociaux. Donc on n'est vraiment pas en train de faire du répressif à mort. Eh ben ça, c'est déjà trop. Ouais, c'est déjà trop. Et quand on considère que ce que Combrexel et ses successeurs, hein, Badinter, la commission Badinter qui est en place maintenant, elle va pas faire autre chose. Hein. Ce que Combrexel ou Badinter veulent faire, le gouvernement en sens général, c'est en fait que partout il y a une série d'accords qui régissent la vie des entreprises, qui régissent la vie des salariés, mais que en fait le contrôle de l'égalité sur ces accords, la régularité de ces accords, il y a plus personne qui va les contrôler. Voilà. On sera dans le flou et le blizzard le plus complet. Voilà. Ce qui est d'ailleurs le blizzard étant le thème de la prochaine plage musicale.
Eh ben écoute, moi j'ai tout voilà. Ce que je vais à dire. Voilà. Et à échanger.
Ben je te remercie pour ton intervention. Effectivement, ben ça concerne tout le monde. Hein, ça concerne tout le monde parce que si nous on est en retrait et si nous on est obligé de prendre un maximum de pincettes dans les entreprises, ben forcément c'est les droits de tous les salariés qui vont en pâtir. Quoi. J'espère que ça c'est à peu près clair pour tout le monde. C'est pas une affaire anodine ni une affaire corporatiste. C'est vraiment là, c'est le cœur du droit du travail qui est pratiquement attaqué avec cette affaire Laura.
Ouais, tout à fait.
Merci.
Merci à toi.
À bientôt sur RF.
À bientôt.
Vous êtes toujours sur RFPP, l'émission Mode d'emploi, le format secret de fabrication, 106.3 FM et http://www.rfpp.net. Vous pouvez appeler à tout moment pour passer sur l'antenne, comme le camarade vient de le faire, au 01 40 05 06 10, un standard pour vous recueillir votre appel et nous organiserons votre passage à l'antenne. Voilà, alors nous en étions en train de voir comment la condamnation de Laura prenait place dans une remise en cause générale des droits des salariés, une remise en cause générale du code du travail en faveur d'une négociation collective, et pas touche aux accords une fois qu'ils sont signés. Hein. Ça, c'est une chose qui est assez claire. Problème technique, ça y est, c'est réglé. Alors, si on revient sur ce contexte, on va faire un petit détour par une affaire préoccupante. Pourquoi Laura a été condamnée ? Elle a été condamnée pour violation du secret professionnel. Bon, c'est un peu une considération un peu excessive du secret professionnel. Si on considère que ces documents maintenant qu'elle a été condamnée pour avoir fait circuler, étaient des documents qui la concernaient directement. Et c'est des documents qui dénonçaient, en tout cas dont la publication tendait à dénoncer des infractions commises par un employeur. Donc normalement, et on a utilisé le terme de lanceur d'alerte, normalement le salarié qui a transmis ces documents à l'inspection du travail, parce que c'était des documents qui montraient l'incurie de son employeur, de son propre employeur dans sa relation à l'inspection du travail, c'était des documents qu'il était, selon les règles de l'alerte déontologique, qu'il était en droit de transmettre. Et c'est des documents également que Laura était en droit d'utiliser pour son PV d'obstacle et qu'elle était elle-même, pour se défendre, en droit de transmettre à ses organisations syndicales qui, pour assurer sa défense, étaient en droit de les transmettre aux médias. On a ici un enchaînement à partir de documents qui sont illégaux parce qu'ils n'auraient jamais dû exister, parce que les démarches et les manœuvres de Tefal n'auraient jamais dû avoir lieu. On nous dit qu'il était illégaux de s'en emparer et de les communiquer vers l'extérieur. Ça, c'est une conception extrêmement extensive du secret des affaires. Or, aujourd'hui, en ce moment même, à la négociation, enfin même plus à la négociation d'ailleurs, le projet de directive est prêt. Depuis le début de l'année, et jusqu'à aujourd'hui, a été en négociation donc à la Commission européenne, à Bruxelles, une directive portant sur la protection du secret des affaires. Et cette directive aujourd'hui qui est prête, elle a été publiée le 15 décembre. Cette directive est prête à faire tomber une chape de plomb sur toute la vie intérieure des entreprises. Pourquoi ? Il y a eu une forte émotion hein, quand cette directive a commencé à être négociée, parce que les journalistes sentaient bien ce qui allait leur tomber dessus. Et ce qui allait leur tomber dessus, c'est exactement ce qui est arrivé à Laura, c'est-à-dire interdiction formelle de transmettre des documents internes d'une entreprise, en fait. Et là, pour le coup, les sources ne sont plus protégées, les journalistes ne sont plus protégés. Les directives européennes également qui avaient été passées sur les lanceurs d'alerte, c'est aussi une directive européenne, entrent en contradiction avec celle sur le secret des affaires. Et donc, on peut très bien imaginer laquelle va prédominer. Et donc là, au regard de ceci, je pense qu'on peut se permettre une interprétation, peut-être un peu extensive, mais on va dire politique, de la condamnation de Laura. Et qui est la suivante. Il était hors de question de soutenir un agent qui n'était pas raccord avec le futur monde des affaires tel que le rêve, le MEDEF, les Républicains, le PS et toute la Commission européenne, c'est-à-dire un monde des affaires de total contrôle des entreprises sur leur vie intérieure. On a des accords qui vont être signés à huis clos, qui ne pourront plus être contrôlés par l'État. On a des documents qui ne pourront plus sortir des entreprises sous peine de poursuite. On a des journaux qui seront muselés pour avoir fait leur travail d'information. Et visiblement, on aura également des inspecteurs et des inspectrices du travail qui seront condamnés pour avoir fait circuler des documents qui les visent directement et qui visent et mettent en valeur les infractions des entreprises. Donc là, ça c'est gravissime. Alors, vous pouvez vérifier que je ne raconte pas n'importe quoi, car le texte de prédirective a donc été publié sur le net grâce à l'action d'un site qui s'appelle Contexte. Alors le site de Contexte, c'est http://www.contexte.com. C'est un site qui publie énormément de documents issus des négociations et qui parle de la situation des affaires dans l'entreprise. Et là, ils ont mis la main depuis avant-hier sur le document qui est en cours de validation, donc qui est sur leur site et qui est donc la directive européenne pour la protection du secret des affaires. Donc je vous invite à aller en prendre connaissance, sachant que il y a quand même une campagne sur cette question du secret des affaires. Il y a une campagne qui est en train d'être menée, une pétition a circulé sur change.org qui en 6 mois avait acquis 300 000 signatures, il y a eu des sous-pétitions qui ont circulé dans d'autres pays. Donc tout n'est pas perdu, il y a de la conscientisation qui se fait, heureusement, comme toujours. Et donc mais il faut lutter d'arrache-pied contre cette question du secret des affaires, et je pense que ça méritera que nous revenions dans une prochaine émission sur cette question précise de ce qui est en train de se négocier au niveau européen pour museler toute contestation et toute circulation d'informations dans l'entreprise. Donc ça, c'était pour le contexte très large. Maintenant, je pense que l'heure est venue de faire une petite séquence qui s'appelle, que nous avons maintenant l'habitude de faire depuis quelques mois, et qui s'appelle le Combrexel bashing. Et oui, car notre sieur Combrexel ne s'en sortira pas comme ça. Il aura droit à sa dose ce mois-ci, comme tous les mois. Et donc, le Combrexel bashing de ce mois-ci est essentiellement une démonstration de la nullité de ce personnage. Alors, je vous rappelle les épisodes précédents. On a déjà vu Monsieur Combrexel condamné dans l'affaire Marteau pour être intervenu dans une procédure de licenciement de salariés protégés, à mauvais escient, retoqué par le TA, condamné par le BIT. Alors, l'épisode suivant a été Combrexelle et la police. Comment Combrexelle a cherché à nous faire intervenir à tout bout de champ avec les policiers pour attraper des sans-papiers. On lui a dit « Non, c'est pas le boulot de l'inspection du travail. C'est pas grave, il a persisté. Ben, » Le Bureau international du travail aussi a persisté puisqu'il l'a condamné 3 fois entre 2007 et 2010, lui et toute son administration, pour détournement des missions de l'inspection du travail. Ça fait bien pour un directeur général du travail. Mais évidemment, Combrexelle, puisqu'il a fait énormément de bêtises, comme tout bon fonctionnaire faisant n'importe quoi, a été promu. Il est devenu conseiller d'État à la chambre sociale du conseil d'État, et c'est pour ça qu'on lui a donné un rapport à faire. Alors, le Combrexelle bashing d'aujourd'hui, donc, c'est comment Combrexelle s'en mêle les pinceaux dans son propre rapport sur la refonte du code du travail. Je m'explique. Il prône la négociation sociale tous azimuts. Mais dans son même rapport, il explique que en ce moment, ça ne marche pas très fort. Il explique que la négociation et la convention d'entreprise est plus forte que la loi, plus adaptée que la loi. Ce qu'il oublie de dire, c'est que dans 80% des entreprises où il y a un peu de négociation, ça échoue. Les négociations annuelles obligatoires arrivent la plupart du temps sur des constats de désaccord et aucun accord n'est signé. Ah, mais il va falloir faire des progrès alors. Non, mais c'est pas grave, on va ouvrir de nouveaux champs à la négociation. Mais déjà, la négociation sur les horaires, sur les 35 heures, qui a été le champ de négociation. Donc on a vu que celle sur les salaires, tous les ans, elle foirait. Et maintenant, celle sur les horaires, eh bien on a vu. Il suffit que nous, inspection du travail, on mette le nez dans un accord de 35 heures, et je peux vous assurer que dans plein de situations, on invite à ce qu'il soit renégocié. Bon, vu ce qui est arrivé à Laura, ça risque d'être un peu plus compliqué que maintenant. Et c'est vraiment un grave problème, comme je disais, auquel nous allons faire face. Mais bon, on voit bien que Monsieur Combrexelle ne s'arrête pas à tout ça. Lui, il veut refondre le code du travail, un code du travail issu de luttes centenaires et d'acquis centenaires du mouvement ouvrier. Mais lui, c'est pas grave. En 4 ans, on va bien refondre tout ça. Donc, je pense que cet homme-là mérite tout à fait le qualificatif d'homme pressé, dont nous allons l'affubler immédiatement. Eh bien voilà, donc laissons là notre homme pressé, Monsieur Combrexelle. Je suis sûr qu'il va finir par percuter un mur et nous ne serons pas plus malheureux pour autant. Donc, bien entendu, tout ça ne reste pas sans résultat. Nous avons vu que nous, à l'inspection du travail, nous nous mobilisons pour notre collègue Laura. Pas forcément sans résultat d'ailleurs. Nous arrivons à freiner le pire. Et d'autant plus que de toute façon, il faut toujours se bagarrer, même pour des choses aussi simples que la reconnaissance d'un accident de service. Y compris dans la fonction publique, y compris dans l'inspection du travail, c'est comme ça. Nous avons vu également qu'une campagne de mobilisation était en cours contre la directive européenne sur le secret des affaires, d'ailleurs y compris avec pas mal de journalistes dans le coup, à laquelle je pense que nous allons nous intéresser à l'inspection du travail aussi, vu ce qui vient de se passer. Donc là aussi, stay tuned, comme on dit, et n'hésitez pas, des occasions de mobilisation vont se présenter, tenez-vous informés. Également sur le droit du travail et sa refonte globale, une campagne très sérieuse est en cours, animée par nos syndicats, par la Fondation Copernic. Donc ils parleront de cette campagne-là d'ailleurs dans leur émission de la semaine prochaine, si je peux me permettre de déflorer un peu le sujet. Et que donc il y aura bien d'autres épisodes d'ici la rentrée de janvier et tout le long du premier semestre 2016. Pour résister à ce détricotage du code et résister au projet délétère de notre gouvernement. Je vais finir sur une note plus positive. Allez, c'est décidé, on va se remotiver. Voilà, alors, il faut savoir que demain après-midi à Paris, à 15h, à Barbès, aura lieu la grande manifestation d'accueil des migrants. Et celle-ci, état d'urgence ou pas, on a obtenu qu'elle soit autorisée. Donc n'hésitez pas à venir, venez nombreux, venez accueillir les migrants, dire migrants welcome, bienvenue. Et en plus, vous aurez l'occasion de rencontrer des collègues. Nous allons effectivement à l'inspection du travail nous rendre en nombre à cette émission, à cette manifestation, et nous rendre en cortège organisé, car nous avons décidé de porter nos propres mots d'ordre. Et quels sont-ils? Eh bien, c'est très simple. Nous, dans notre métier, nous constatons que la confusion entre travail des étrangers et travail dissimulé est à son comble. Que nous avons vu que on cherchait, lors de la dernière mission, nous avons vu qu'on cherchait à nous faire intervenir avec les forces de l'ordre, que Combrexel était à la manœuvre, encore une fois, et que nous avons refusé, et que le Bureau international du travail nous a donné raison, car nous pensons que ce sont deux choses très différentes d'employer des étrangers et de ne pas déclarer ses salariés. On peut parfaitement avoir des salariés étrangers qu'on déclare, et à l'inverse, la plupart des emplois non déclarés sont tenus par des Français. Bien sûr, c'est la majorité de la masse salariale dans le pays. Donc, pour nous, cette confusion est fatale. Elle est fatale et elle ne permet pas de lutter efficacement contre le travail dissimulé. C'est le seul travail où il y a vraiment de l'argent à gagner pour les employeurs, et c'est celui-là qu'ils recherchent. Donc, pour nous, la répression des sans-papiers, ça n'a aucun intérêt en termes de lutte contre le travail dissimulé. Ça n'apporte absolument rien, et même, c'est totalement contre-productif. Pourquoi ? Le travailleur sans papier, c'est le seul qui a intérêt à se solidariser avec son employeur et à ne rien dire, même quand il est contrôlé, même quand il aurait l'occasion de dénoncer son employeur qui lui impose le travail au noir. Donc, le sans papier, c'est la victime idéale du travail dissimulé. Et tant qu'il y aura des sans papiers, il y aura du travail dissimulé. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc, les revendications qui seront portées, donc on aura un cortège de l'inspection du travail en soutien aux migrants et aux sans papiers. Et les mots d'ordre qui seront portés seront la régularisation de tous les sans-papiers, bien entendu, mais aussi que tout travailleur sans-papiers au travail doit être régularisé sur simple preuve de sa relation de travail, sans condition de durée, ni de séjour, ni d'emploi. Il n'y a que comme ça qu'on asséchera le marché parallèle des travailleurs sans-papiers dans le travail dissimulé. Nous-mêmes, nous réclamons, aux côtés des collectifs sans-papiers, que l'inspection du travail soit dotée d'un pouvoir de régularisation sur simple constat d'une relation de travail. Et enfin, nous demandons également que la taxe OFI, c'est-à-dire la taxe qui est prélevée sur l'embauche de l'étranger, soit supprimée, car elle est discriminatoire. Elle est discriminatoire, c'est une taxe qui est demandée qu'aux étrangers, qu'aux patrons qui embauchent des étrangers, mais pas aux patrons qui embauchent des Français. Et ça, ça ne sert à rien en termes de protection du marché du travail. Par contre, c'est extrêmement discriminatoire parce que ça décourage la régularisation. Donc ça, c'est pour nous, c'est une première étape. Déjà, clarifier ces choses-là, profiter de la manif de demain, pour porter ce message, c'est quelque chose que nous allons nous atteler à faire à l'inspection du travail. En ligne de mire, évidemment, la régularisation de tous les sans-papiers, mais aussi, nous visons, à long terme, à ce que la nécessité d'avoir une autorisation pour travailler quand on est étranger soit purement et simplement supprimée du code du travail. Nous pensons qu'un travailleur égale un travailleur, et nous, quand nous contrôlons un employeur, nous voulons juste savoir si ses salariés sont déclarés, pas s'il emploie des étrangers. Voilà, pour porter ces mots d'ordre et le mot d'ordre d'accueil des migrants, donc rendez-vous tous samedi, donc demain, à 15h à Barbès, et nous manifesterons en direction de République pour dire halte à la politique contre les migrants, halte à la discrimination et égalité de tous les salariés au travail. Voilà, l'émission s'achève maintenant, c'était Mode d'emploi, donc le format secret de fabrication sur Radio Fréquence Paris Pluriel, tous les troisièmes vendredis de chaque mois.